Chat-perché par Richard Keller, chapitre 4. Mardi 4 février. Il neigeait depuis le milieu de la nuit et de gros flocons envahirent la ville. Sagol et Gilles se retrouvèrent au bureau de la brigade pour faire le point sur l'affaire Pralon, comme il convenait de l'appeler. Un constat s'imposait. La neige n'était pas l'alliée des enquêteurs. Elle effaçait les traces extérieures. À l'intérieur, il y avait bien quelques empreintes qui furent soumises au fichier central, sans grand succès au premier passage. Ensuite, il faudrait approfondir les recherches et cela prendrait un peu de temps. Les gendarmes décidèrent de rendre visite à Madame Germaine Dercourt, présidente de la SPA locale. Le refuge se trouvait à l'extérieur de la cité. Une riche héritière avait fait don de son domaine dans les années 50. Mais la propriété se délabrait à grande vitesse, car l'association fonctionnait toujours avec des moyens limités. Ils s'engagèrent dans un chemin enneigé. Gilles faisait des prouesses au volant pour ne pas s'embourber. Sur les arbres centenaires, le contraste entre la blancheur des cristaux et l'écorce sombre rappelait un paysage à la Hitchcock. Il ne manquait que les corbeaux. Deux ou trois embardées plus tard, ils se garèrent devant l'entrée du domaine. Quelques escaliers amenaient les visiteurs au perron. Une lourde porte en bois vermoulu enfermait l'entrée. Sagol actionna une poignée, reliée par un câble à une cloche intérieure. La sonnerie provoqua des effets divers. Tout d'abord, l'aboiement des chiens. Ils devaient être dans un local derrière la grande masure. Un chien en appelant un autre, un concert ininterrompu se mit en place. Le deuxième effet fut l'ouverture de la porte par une gâche mécanique. Ils pénétrèrent dans le couloir et avancèrent dans un hall d'entrée immense, dénudé, au carrelage en damier noir et blanc, brisé en de nombreux endroits. Le lieu paraissait sinistre. Une dame arriva par une porte située sous l'escalier central. « Bonjour, messieurs, que puis-je pour vous ?»« Bonjour, madame. Voici mon adjoint, le gendarme Gilles. Je suis l'adjudant-chef Sagol. Nous voudrions parler à Madame Dercourt. C'est moi-même. Je vous écoute. Nous venons vous voir au sujet de Madame Pralon. Ah, ma chère Mélanie, a-t-elle fait un hold-up? Malheureusement pour elle, je ne pense pas qu'elle ait envisagé ce genre d'activité. Venez dans le bureau, nous serons plus à l'aise, messieurs. Madame Dercourt portait allègrement ses 75 ans. La silhouette droite, les cheveux teints d'un blond couleur de blé mûr. Le maquillage était un peu excessif au goût des deux hommes. Cette femme, à n'en point douter, était une bourgeoise. Il conviendra de s'exprimer avec délicatesse et doigté, se dit Léo. La pièce minuscule, située sous l'escalier, abritait un bureau qui n'était plus de première jeunesse. Germaine Dercourt prit place dans un fauteuil en cuir d'une couleur indéfinie. Les accoudoirs étaient élimés et de la mousse sortait d'un trou béant. Ils s'installèrent sur deux chaises en formica. Tout ce mobilier provenait de matériel de récupération. Sagol comprit, en voyant un petit radiateur électrique, la raison de l'exiguïté du bureau. Le chauffage. La SPA ne roulant pas sur l'or, la présidente s'était installée dans un local facile à chauffer pour un coût moindre. Elle fit preuve de patience. À aucun moment elle ne posa de questions sur le véritable but de la visite des gendarmes. C'était une femme d'expérience qui possédait une longue pratique de l'humanité. Elle attendrait le moment opportun pour les interroger. Sagol commença par un tour d'horizon de l'activité du refuge. « Parlez-moi donc de l'activité et de vos animaux. Nous sommes une dizaine de bénévoles et nous avons une capacité d'accueil de 35 chats et 60 chiens. L'essentiel de nos ressources provient de dons et de legs. La municipalité nous verse aussi une petite subvention, mais nous souhaiterions qu'elle prenne à sa charge l'entretien de tous les bâtiments. Ceci fait partie d'une longue histoire et je crains que de mon vivant, aucune solution ne soit trouvée. Gilles, combien avez-vous d'animaux actuellement ? Le refuge est toujours plein, et en été, nous sommes à l'identique des prisons, en sureffectif. « Que faites-vous dans ces cas-là ? » demanda le chef. « Nous pratiquons l'euthanasie, la mort dans l'âme, messieurs. En cette saison, aucun animal n'est exécuté. Certains malchanceux restent de nombreuses semaines chez nous. Par contre, chacun trouve un maître. En juillet et août, ce n'est pas le cas. Il est très difficile de faire adopter les animaux les plus vieux ou souffrant d'infirmité. Sagol voulait savoir si la défunte gravitait dans le cercle des intimes de Germaine Dercourt. Madame Pralon vient souvent vous rendre visite. Mélanie n'a pas de moyen de locomotion. Alors, je lui rends visite. Je déguste son excellente thé de Chine tous les 15 jours. D'ailleurs, nous avons passé un moment ensemble vendredi dernier. Madame Dercourt, j'ai une bien mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je vous écoute. Votre amie a été découverte morte dans son appartement. Il s'agit d'un meurtre. Ce n'est pas Dieu possible. Je l'ai vue vendredi. Elle était en pleine forme. Vous comprenez la raison qui nous amène vers vous aujourd'hui. Nous avons besoin de votre collaboration. Vous avez peut-être vu ou entendu quelque chose qui nous mettrait sur la piste de l'assassin. Paraissait-elle préoccupée vendredi ? Nous avons discuté de tout et de rien, et Mélanie a fait preuve de sa gaieté habituelle. Je n'ai rien remarqué de particulier. Et puis vous savez, en dehors de ses chats, elle n'avait pas d'autre passion. Gilles, justement, je voudrais vous parler d'eux. Avez-vous eu des plaintes de la part de vos usagers ? Des disparitions inexpliquées, par exemple ? Bien sûr, il y a le problème des chasseurs, mais ni plus ni moins que les autres années. Vous a-t-on signalé la disparition de félins de race ? Oui, j'ai une amie qui a eu à déplorer la disparition d'un persan roux et d'un siamois, ce qui paraît surprenant, d'autant que ces animaux étaient très habitués à leur maîtresse. Étant châtrés, ils ne s'éloignaient jamais. Il est rarissime qu'un chat de race soit abandonné. La rareté les protège. Quand ont eu lieu ces disparitions ? Il y a environ 3 mois. Pouvez-vous nous fournir les coordonnées de votre ami ? Il est possible que son témoignage nous intéresse. Il s'agit de Madame Delussinge. Elle a sa propriété route du col de Crussol. C'est le domaine sur la droite, au pied de la colline. Sagol considéra avoir fait le tour du sujet. Il fixa Gilles. Tellement habitués l'un à l'autre, d'un seul regard, ils se comprenaient. Madame Dercourt, je vous remercie des renseignements que vous nous avez communiqués. Je ne manquerai pas de faire appel à vos compétences si le besoin s'en fait sentir. C'est tout naturel, monsieur Sagol. Connaissez-vous la date des obsèques ? Pas encore, mais je pense que le chanoine de la chapelle du château pourra vous en dire plus d'ici 24 heures. Elle les raccompagna sur le perron, la neige tombait avec encore plus de vigueur. Gilles aurait encore à réaliser des prouesses pour sortir du chemin d'accès. De retour en ville, non sans difficulté, les deux gendarmes décidèrent de s'accorder une demi-journée pour méditer en solitaire. Gilles irait à la médiathèque pendant que Sagol consulterait les affaires criminelles impliquant des animaux ou la Chine. Ils convinrent de faire le bilan le lendemain matin dès 8 heures. La médiathèque Louis-Aragon, située dans le quartier des Halles, surgissait tel un paquebot au milieu de la place. C'était la fierté de l'équipe municipale actuelle. Elle consentait un effort important dans le domaine de la culture. Gilles montra sa carte, ce qui lui évita d'avoir à régler l'entrée. Afin de filtrer l'accès, il fallait être abonné ou bien payer un droit d'entrée de 5 euros, ce qui était dissuasif. L'enquêteur se dirigea tout d'abord au rayon animaux. Il ne savait pas trop ce qu'il cherchait et consulta des livres sur les différentes espèces de chats. Ceux-ci se révélaient tous passionnants, mais notre homme n'avait pas la fibre. Il s'en tenait aux termes techniques. Il remarqua tout de même des éléments pouvant lui permettre d'avancer dans la recherche de la vérité. Il en découvrit 2, peu répandus dans notre pays, et comme par hasard, il s'agissait des 2 chats disposés sur les genoux de Mélanie lors de la découverte macabre. En effet, un chat roux et blanc, à poils ras, ressemblant en tout point au Wire Air, était posé sur la jambe droite de feu Madame Pralon. Gilles craignait de se tromper, car l'ouvrage précisait qu'il n'existait que 22 spécimens répertoriés à ce jour et qu'ils se trouvaient tous aux États-Unis et au Canada. Il se distinguait par son poil court et raide, résultat d'une anomalie génétique. Il faudrait vérifier si le pelage de l'animal incriminé n'avait pas été traité par un produit afin de lui donner cet aspect. Le deuxième félin présentait des similitudes avec l'espèce américaine Ossicat. Ce chat d'allure massive ressemblait à un fauve. En France, on ne connaissait aucun élevage à ce jour. L'enquêteur consulta d'autres documents afin de noter les références des meilleurs connaisseurs dans ce domaine. Le spécialiste incontestable se nommait Ernest Lapébie, professeur vétérinaire de renom, spécialisé dans la recherche sur les origines et les croisements des félidés. Il faisait autorité en la matière. Retraité de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, il s'était retiré dans l'Aveyron, à Conques. Gilles se dirigea vers la division Orient. Le rayon de la Chine lui tendait les bras. Il se trouva face à une profusion d'ouvrages. En homme organisé, il chercha dans ceux concernant la ville de Xian et sa région. Il apprit que la cité, vieille de plus de 3000 ans, avait été jadis la capitale sous 12 dynasties. Cette ville était le point de départ de la mythique route de la soie. Il y avait aussi de nombreux livres sur l'armée enterrée, des milliers de soldats en terre cuite, d'une hauteur de 2 mètres environ. L'empereur Qin en fit construire la reproduction pour se protéger dans l'au-delà. L'armée était si bien cachée qu'elle ne fut découverte qu'en 1974. L'homme était perplexe. La contrée devait sa renommée à la découverte de l'armée enfouie et à de nombreux tumulus abritant les tombeaux dans la campagne environnante. Gilles lut aussi qu'il existait une variété de riz uniquement cultivée dans les rizières de Xian. La zone de culture étant minuscule, trouver celui-ci hors de la région de production relevait d'un pari insensé. Hormis ces découvertes, tout était sans grand intérêt pour l'enquête. Il était 16h30 lorsque l'adjoint de Sagol sortit du complexe Louis Aragon. Il avait recueilli des éléments dont il ferait part à son chef le lendemain matin. Il se motiva pour continuer ses recherches sur Internet et passa un long moment à surfer sur le web. Les résultats de ses investigations se recoupèrent avec les données collectées à la médiathèque. Il éteignit l'ordinateur et regarda la neige tomber dans la nuit. Les flocons, sous la lumière du lampadaire, tournoyaient comme des insectes attirés par la lueur et qui se brûlent les ailes au contact des lampes. Il sortit du bureau en se disant que demain serait un autre jour. Ce matin-là, le thermomètre indiquait moins 5 degrés. Les deux collègues burent le café au bar proche de la caserne. Des habitués faisaient leurs commentaires matinaux au comptoir. Tout y passa. Le laxisme envers la jeunesse, la hausse des prix, le chômage et la télévision, sans oublier la politique et le sport. Sagol aimait bien prendre son petit noir du matin dans cette gargote. Il savourait avec délectation les propos des clients. Certains méritaient le détour. Nul besoin de voyager. Ici, on refaisait le monde entre deux verres. Gilles apprécia un peu moins que son chef. Il trouva certains propos déplacés, parfois racistes et machistes. Quelques minutes plus tard, les deux hommes s'installèrent dans un bureau. Ils apposèrent un panonceau « Ne pas déranger ». Ils souhaitaient récapituler le dossier tranquillement, sans être importunés, pendant qu'ils échangeraient leurs idées et les résultats des premières investigations. Ils avouèrent volontiers qu'ils ne possédaient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ils utilisaient la même méthode. Sur un mur, ils disposèrent un tableau blanc. Gilles prit un feutre noir et une éponge pour effacer, et à chaque échange avec le chef, il notait. Mélanie Pralon, 82 ans, morte probablement par strangulation, donnée à manger à tous les matous du quartier. 32 chats empaillés disposés dans l'appartement au 3e et dernier étage. L'assassin est entré et sorti par la porte principale. Il a emporté un jeu de clés. Les chats regardaient tous en direction d'une map monde sise sur un guéridon, le point de convergence étant la ville de Xian en Chine. Il n'y a aucun animal identique. La victime, connue et appréciée dans son quartier, faisait l'unanimité. Il y a un parc et des clochards à proximité, ainsi qu'un squat occupé par de jeunes drogués. La neige est tombée à plusieurs reprises au cours du week-end, effaçant les traces éventuelles. Il manque aussi le boîtier d'appel d'urgence. Il pourrait être un allié précieux si jamais il se trouvait connecté. Les dernières personnes à l'avoir vue vivante sont Germaine Dercourt, présidente de la SPA, et Louisa Dacruz, la femme de ménage. Les deux chats retrouvés sur les genoux de la défunte sont des espèces rares, Wire Air et Ossicat. Il n'existe aucun élevage en France. Eh bien, mon ami, nous avons quand même plusieurs éléments intéressants. Je crois que la solution de l'énigme ne peut venir que des animaux, affirma Sagol. Je suis de votre avis, chef. Aussi, j'ai noté les coordonnées du grand spécialiste en la matière, qui se nomme Ernest Lapébie et réside dans le département de l'Aveyron. Gilles, vous êtes incorrigible. N'avez-vous pas plus près à me proposer? Nous pourrions mettre son audition en attente et voir d'abord Madame de Lucinge. Oui, nous allons commencer par ce qui est proche. Après la châtelaine, nous enquêterons auprès des taxidermistes et je voudrais en relever des communications téléphoniques échangées depuis l'appartement de Mélanie dans les 30 jours précédant le meurtre. Sans oublier l'enquête de voisinage, bien entendu. Enfin, la routine, Gilles. Je m'y emploie dès maintenant. D'accord, mon cher, mais nous allons d'abord visiter notre aristochat. Vous m'avez compris, ma langue a fourché. Je voulais dire aristocrate. La demeure familiale de Madame de Lucinge se situait à 3 kilomètres à l'extérieur de la ville. Le château, de style Renaissance, reposait sur un tumulus entouré d'un méandre de la rivière. La propriété appartenait à la famille depuis le XVe siècle. Un aïeul de l'actuel propriétaire fit la campagne d'Italie sous la bannière de Charles VIII. Il franchit le Mont-Genève en septembre 1494 et reçut en récompense le titre de baron et le domaine y attenant. De nos jours, le site est rattrapé par l'urbanisation galopante. Au début du XXe siècle, les terres de la baronnie se trouvaient à 8 kilomètres du centre de la cité. Les municipalités successives n'ont eu de cesse de grappiller du terrain pour élargir les murs de la ville. Gardien d'un passé qui faisait la fierté de Madame de Lucinge, le château avait fière allure malgré ses amputations successives. Il veillait sur la vallée. La neige, qui recouvrait de son manteau blanc la campagne environnante, apportait une luminosité qui embellissait l'édifice. Avec un peu d'imagination et en remontant le temps de plusieurs siècles, nous aurions pu croiser François Ier et Léonard de Vinci. Le véhicule Peugeot, ayant à son bord le chef et son adjoint, s'engagea sur la voie verglacée qui montait jusqu'à la demeure. Et ce qui devait arriver, arriva. À la sortie d'un virage, ils abordèrent un petit raidillon, puis Gilles fit une fausse manœuvre et le moteur de la berline cala. Sans élan, il leur fut impossible d'aller plus loin avec la voiture. Ils terminèrent la balade à pied. Sagol maugréait après le sort. Il n'aimait pas beaucoup la topographie des lieux et n'avait qu'un choix restreint. Soit il se déplaçait sur la chaussée, au risque de se rompre le cou sur une plaque de glace, ou alors il évoluait sur le bas-côté en s'enfonçant dans la couche de neige accumulée sur les bordures. Il choisit le bord du chemin et chaque fois qu'il s'enfonçait, il maudissait tous les chats de la création. Gilles, qui connaissait bien le caractère de son chef, suivait à deux pas derrière et surtout ne faisait aucun commentaire. Ils mirent quelques minutes pour parcourir environ 400 mètres. Majestueuse, la tour du donjon toisait les hommes qui se présentèrent devant l'entrée principale. Une concession au modernisme n'échappa point à Sagol. Une caméra de surveillance était installée au-dessus du porche, juste sous un blason. Il pensa, à juste titre, qu'il s'agissait des armoiries de la famille. Sur le mur de droite, il y avait un petit boîtier avec un clavier et un haut-parleur. Sagol appuya brièvement sur un bouton. Une voix féminine nasillarde répondit « Bonjour, que désirez-vous ? » « Bonjour, madame, gendarmerie nationale. Nous venons de la part de madame Dercourt. J'ai appelé madame de Lucinge en fin de matinée. Je vous ouvre, messieurs. » Le lourd portail de fer forgé coulissa. Ils s'engagèrent sous le porche et, après quelques pas, furent dans la cour d'honneur recouverte de neige. Sur les côtés, un sentier d'accès permettait d'atteindre l'escalier extérieur. Ils n'étaient pas très sûrs de leurs mouvements et avançaient prudemment sur ce sol pavé, glissant, malgré un salage conséquent. Chantal de Lucinge attendait sur le perron. C'était une belle femme. Elle portait bien ses 50 ans, mais les deux hommes, sous le charme, auraient diminué d'au moins 10 ans l'âge de la baronne. Grande, les cheveux châtains, retombant sur les épaules et dans le cou, le regard chaleureux de ses grands yeux verts captivait. Elle souriait en s'approchant d'eux. « Ce n'est pas le meilleur moment pour nous rendre visite. Je vous en prie, entrez vite. »« Je vous remercie, madame. Je suis l'adjudant-chef Sagol et voici mon adjoint, le gendarme Gilles. Bienvenue au domaine. Nous allons nous installer au salon. Il y fait plus chaud et nous serons plus à l'aise. Puis-je vous proposer une boisson chaude, thé ou café ?»« Avec plaisir, madame. Deux cafés, s'il vous plaît. » »« Je vous abandonne 2 secondes. Vous pouvez regarder les tableaux en m'attendant. » Chantal de Lucinge sortit par un passage situé dans un renfoncement de la pièce. La porte était recouverte de cuir et de gros clous carrés en fer forgé. Un canapé et 4 fauteuils en cuir fauve de style anglais étaient disposés en arc de cercle autour de l'âtre. Gilles admirait la cheminée où brûlaient de grosses bûches. Une grille protégeait des escarbilles, les meubles et tapis. Sur le manteau de celle-ci, le même blason que celui du porche de l'entrée attira l'œil des deux hommes. Les armoiries gravées de la baronnie représentaient une louve allaitant un dragon, un poisson, un aigle et un agneau. Gilles fut surpris de voir cohabiter ces 5 animaux. Madame de Lucinge revint avec une desserte à roulettes. Elle avait disposé une cafetière, des tasses, du sucre et quelques biscuits. Sagol, installé confortablement dans un fauteuil, n'avait pas bougé pendant l'absence de la maîtresse de maison. Gilles rejoignit lui aussi un siège. L'hôtesse remplit les 3 tasses et s'assit sur le bord d'un canapé. « Monsieur Gilles, je vois que notre blason vous intrigue. Je ne peux rien vous cacher, madame. Nous évoquons une vieille et longue histoire. En résumé, il s'agit d'une allégorie. La louve représentant une de mes aïeules, le dragon s'identifie au feu, donc à la force, le poisson représente l'eau et l'habileté, l'aigle domine le ciel, nous lui attribuons la clairvoyance. L'agneau, point besoin de préciser qu'il est synonyme de la douceur de la terre. Mes ancêtres ont toujours eu à cœur de ne cesser de se comporter en harmonie avec cette représentation. Il n'y a que la devise qui a été oubliée au fil des siècles. « Je suis curieux, madame, qu'exprimait cette maxime, si je puis me permettre. C'était un texte guerrier. Par le feu du ciel et le sang de la terre, nous vaincrons les impies. Reconnaissons que cette formule n'est plus adaptée à notre époque. » Sagol s'adressa à elle en la félicitant pour la qualité de son café. « Nous enquêtons dans une affaire de meurtre et la disparition de vos chats peut nous mettre sur la voie de l'assassin. » « Oui, monsieur Sagol, Félix et Zorba me manquent beaucoup. Auriez-vous des photos de vos animaux ?» La baronne alla directement vers un secrétaire à l'extrémité gauche du salon. Elle rapporta un album. « Voilà mes chéris, messieurs. » Il regorgeait d'images des 2 matous. Un gros persan roux et un siamois un peu plus petit y figuraient. Sur les épreuves, il voyait les animaux jouer ensemble. Félix possédait un pelage extraordinaire, d'une douceur incroyable. Adorable, toujours câlin et de bonne humeur, il aimait se faire brosser. Je m'en occupais tous les jours. Quant à Zorba, mon merveilleux siamois, de caractère plus réservé, il m'a apprivoisé. Chez cette race, c'est l'animal le chef. Ils avaient sensiblement le même âge, 7 ans, et s'entendaient comme larron en foire. Sagol demanda à son hôte si les deux mâles étaient châtrés. Il n'en avait rien à faire, mais son expérience l'inclinait à écouter plutôt qu'écourter. Oui, sinon une compétition se serait instaurée, et il y aurait eu bagarre en permanence. Je comprends. Vos chats sortaient-ils à l'extérieur du château? Rarement. Mais s'ils voulaient prendre l'air, ils passaient par un souterrain et se retrouvaient derrière les écuries. Vous souvenez-vous du jour de leur disparition? Oh que oui, je m'en souviendrai longtemps. C'était le week-end des Journées du patrimoine. Depuis quelques années, je participe à cette manifestation et les visiteurs peuvent apprécier les collections ainsi que les jardins. Si mes souvenirs sont exacts, nous parlons des derniers jours d'octobre. Tout à fait, monsieur Sagol. Et la disparition s'est produite le dimanche. Le samedi soir, nous recevions des amis. Félix et Zorba étaient présents. Avez-vous remarqué un détail inhabituel ou insolite ce jour-là, madame? Je me suis beaucoup passé le film de ces journées dans ma tête. Mais vraiment, il n'y a rien qui me frappe. Vous dites un film. Avez-vous des caméras? Quand je parle de film, je veux dire que je me suis remémoré les heures d'ouverture pour essayer de repérer quelque chose. En dehors de la caméra de l'entrée, vous n'avez pas filmé cette journée? Oh non, j'avais même débranché le système ce jour-là, car il y avait trop de monde pour que ce soit efficace. Qui était présent pour vous assister? Votre mari peut-être? Mon époux vient rarement ici, il vit en Sologne. Nous restons mariés, mais nous vivons chacun de notre côté. Chacun s'en trouve mieux ainsi. J'avais Léonie, qui est avec moi depuis 30 ans, et son mari Auguste, qui s'occupe des travaux et de la coordination avec les intervenants externes. J'en réponds comme de la prunelle de mes yeux. Ils n'ont rien remarqué? Léonie m'a fait part d'un visiteur qui avait un gros sac à dos. Il ressemblait plus à un routard qu'à un amateur de vieilles pierres. Je ne l'ai pas vu, je ne sais à quoi il ressemblait. A-t-on volé quelque objet? Aucunement, monsieur Sagol. L'homme au sac à dos n'a fait que visiter la propriété. Connaissiez-vous Mélanie Pralon? Pas plus que ça. Je l'ai rencontrée plusieurs fois aux assemblées de la SPA. C'était une personne sympathique. Germaine Dercourt m'a fait part de l'horrible tragédie. Il semble qu'il y ait une mise en scène macabre autour des chats. En effet, madame de Lucinge, nous allons vous montrer quelques images pour voir si Félix ou Zorba font partie des animaux retrouvés chez la défunte. Ici, messieurs, je suis presque sûr que c'est Félix. Et voilà Zorba. C'est ignoble de tuer des gens et des animaux innocents. La baronne sanglotait. Puisque nous sommes dans les photos, il y a sûrement eu des clichés réalisés à l'occasion des Journées du patrimoine. L'hôtesse s'essuya avec un mouchoir et répondit à Gilles. « Vous avez raison, il y a une exposition chaque année, nous fournissons les meilleurs qui sont exposés au musée municipal. » Elle retourna chercher un autre album dans le secrétaire. « Voilà, un ami photographe a réalisé le reportage, il ne travaille qu'avec de la pellicule argentique. » Gilles scrutait attentivement les images. Il tourna la page et Sagol posa le doigt sous une. Regardez, il y a un homme avec un sac à dos. Pas de chance, il n'est pas de face et un peu loin. Gilles sortit un couteau suisse de sa poche qu'il s'était offert récemment et ajusta sa loupe sur le personnage. Il ne put que lire la marque du fabricant. C'était du bon matériel utilisé par les gens de montagne, un sac millet. Le chef tourna les pages. L'individu en question figurait aussi sur un autre cliché, mais toujours de dos. La luminosité était différente. L'image avait été réalisée à un autre moment de la journée. Gilles posa la loupe dessus et s'exclama. « Oui, ce n'est pas au même moment, et son bagage est différent, plus volumineux. Madame de Lucinge, puis-je vous emprunter ces photos pour les besoins de l'enquête? Allez-y, monsieur Gilles. » Les prises de vue avaient été réalisées quasiment au même endroit mais à quelques heures d'intervalle. Gilles pensait que la première avait été faite aux environs de 13 heures et la seconde vers 16 heures. Sa gueule détaillait chaque centimètre carré devant lui. Ce sac l'intriguait. « Je crois qu'il semble plus rempli sur la deuxième prise, Gilles. »« Oui, c'est indéniable. Il faudra les faire agrandir. S'agissant d'argentique, nous pourrons obtenir un format conséquent sans perdre les détails. » »« Monsieur Sagol, quand j'y pense, il y a aussi un livre d'or ouvert lors de ces journées. Les visiteurs mettent un mot avec leur adresse. Merci du renseignement, mais je ne crois pas que notre homme ait laissé son numéro de téléphone. » Gilles se hasarda à poser une question perfide. « Madame de Lucinge, vous nous avez dit que votre couple n'était plus en phase. »« Exact, je ne comprends pas la question. Votre époux serait-il capable de s'en prendre à vos chats par vengeance ?»« C'est impossible, monsieur Gilles. Comme moi, il adorait Félix et Zorba. D'ailleurs, c'est lui qui m'a proposé de les laisser dans leur environnement habituel. » »« Alors excusez-moi pour cette question. » C'est normal. Dans votre rôle d'enquêteur, vous explorez toutes les pistes. Je vous le répète, nous vivons séparés, mais nous sommes bons amis et gardons un excellent contact. » Sagol reprit le flambeau. « Nous ne voulons pas abuser de votre hospitalité. Nous avons particulièrement apprécié l'accueil et le café. J'aurai un dernier service à solliciter. Pourriez-vous demander à votre régisseur s'il peut nous dépanner avec la Jeep? Nous sommes coincés dans le dernier édillon et il y a beaucoup de verglas. Je l'appelle tout de suite. Vous savez, le chemin est long et en hiver, ce n'est pas une sinécure de le garder praticable. » Auguste se révéla être un homme au tempérament rieur. Il ne manqua pas de leur demander combien de points il devait enlever sur le permis de Gilles. Ce dernier apprécia modérément la plaisanterie, alors que Sagol riait de bon cœur, car il savait qu'au volant, il n'aurait pas mieux fait que son adjoint. Auguste remit leur voiture sur le chemin et les raccompagna jusqu'à la route. Les deux hommes avaient passé un bon moment et ne rentraient pas bredouilles de leur visite chez la baronne. Il semblait presque acquis que Félix et Zorba se trouvaient aujourd'hui empaillés dans l'appartement de Mélanie. L'homme au sac représentait une piste, mais malheureusement, il tournait le dos à l'objectif. Maintenant, il misait sur l'agrandissement des clichés pour repérer d'autres détails. Sagol, intrigué par la discussion qu'il avait eue avec Auguste, décida d'avoir une entrevue avec M. Côté, radiesthésiste. Il relata à Gilles les propos qu'avait tenus le régisseur pendant que ce dernier était au volant de la Peugeot pour sortir de l'ornière. Le chef s'était installé dans la Jeep, sur le siège passager, pendant que l'intendant lui avait expliqué qu'après la disparition des deux protégés de sa patronne, cette dernière s'était rendue en ville pour rencontrer Pierre-Jean Côté. Il était, au dire du régisseur, un charlatan connu dans la région.